Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Gaudete in Domino semper, gaudete in Domino. J'ai voulu que nous entendions ce texte absolument, car par la forme ordinaire, on ne l'entend qu'une fois sur trois. C'est bien dommage, puisque, heureusement, vous l'avez chanté dans l'introïte, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est le dimanche de la joie ». Nous sommes à mi-avant, ça ne se dit pas, mais c'est ce qui se passe, c'est que nous sommes au milieu de l'avant, et l'Église déjà se réjouit intérieurement, profondément, et nous y invite à nous réjouir parce que le Christ est de plus en plus proche, qu'il vient, et c'est la raison de l'atténuation du violet d'avant, qui n'est déjà pas le violet du carême, qui est déjà un peu plus léger. Et eh bien ici, c'est en rose aujourd'hui, afin que nous sachions que la gloire du Christ, l'or, le blanc du Christ qui vient, va effacer toute chose, s'estomper, mais petit à petit, car la grâce parfait la nature selon le mode de la nature, et c'est donc tout doucement que le Christ va nous apparaître. Voyons d'abord Jean le Baptiste, et ensuite les fruits du Christ qui vient. Tout d'abord, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est prêtre de Jésus-Christ, et puis le Seigneur va nous en dire quelque chose en plus. D'abord, il est prêtre de Jésus-Christ. Ça peut peut-être vous étonner ce que je vous dis, parce que au moment où Jean le Baptiste naît, il n'est pas, a priori, d'abord prêtre de Jésus-Christ, et d'abord prêtre juif, fils de son père, qui est lui-même de la caste des prêtres. Et pourtant, nous l'appelons le précurseur, surtout parce qu'il a été le précurseur du sacerdoce du Christ. Et oui, Jean le Baptiste est un prêtre, donc on l'attendrait dans le temple pour faire des offrandes, on l'attendrait marié pour qu'il transmette la caste des prêtres telle que dans l'Ancien Testament ils étaient constitués. Or, rien de tout cela, le Baptiste a déjà compris que l'ancienne alliance se terminait, se finissait avec ses prescriptions et qu'un nouveau sacerdoce allait être inauguré dans le Christ. Le Baptiste vit déjà du sacerdoce du Christ. Il s'est consacré tout entièrement à Dieu, ne se mariant pas. Il est au milieu du désert, en train d'appeler les nations et les peuples, d'abord le peuple juif, à la conversion. Oui, voilà le rôle du Baptiste, et son autre rôle qui est tout aussi sacerdotal, c'est qu'ici, vous l'avez entendu, il envoie ses disciples au Christ. Et oui, le sacerdoce n'est pas possédé par soi-même ou pour soi-même. Le sacerdoce, c'est celui du Christ, car il n'y a qu'un seul prêtre, un unique et grand prêtre, comme le dit si bien l'Épître aux Hébreux, et c'est pas moi. Et oui, le Christ est le seul grand prêtre que nous ayons, et nous ne faisons que participer du sacerdoce du Christ. Du coup, ça doit se voir, c'est-à-dire que c'est pour ça que nous nous habillons d'ailleurs d'une manière qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle de mon goût, ou de, même si ça peut avoir une incidence, mais en tout cas, je ne m'habille pas comme ça chez moi, rassurez-vous, hein. Eh bien, je m'habille selon que les prescriptions de l'Église, ce Christ réellement présent au milieu de nous, le Christ continué dans le temps, me le donne. Et donc, c'est parce que je ne suis pas le Christ, je ne suis qu'une participation, l'image du sacerdoce du Christ. Et donc, je ne dois pas envoyer à moi, mais au Christ. Et c'est ce que le Baptiste fait ici. Ne croyez pas qu'il n'ait pas reconnu le Seigneur. C'est lui le premier qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Bon, il sait très bien qui est le Christ. Il l'a désigné comme l'agneau, c'est-à-dire l'agneau mystique, celui qui va enlever tous les péchés, Dieu lui-même. Alors, il n'a aucun doute. Simplement, en bon prêtre qu'il est, il fait comprendre dans l'action qui est le Christ. Il ne leur fait pas un cours en leur disant, eh bien, voilà, non. Il les envoie et il leur dit, allez lui poser la question, êtes-vous le Christ ? Il met ses disciples dans la position de découvrir eux-mêmes qui est le Christ en les envoyant poser des questions au Seigneur, lequel a évidemment bien compris. Il n'est pas besoin de dire à Jean que les boiteux marchent, que les aveugles voient, il le sait déjà. C'est lui qui a commencé d'opérer ces miracles, parce qu'il est le précurseur. Il attend que eux-mêmes trouvent la réponse en leur disant « Voilà ce que dit l'Écriture sainte et tout l'Ancien Testament, voici le signe du Christ. » Alors, voilà qui est Jean le Baptiste, et le Christ va nous en dire quelque chose. Ici, dans l'exorde qui est là, non plus à ses disciples qui sont repartis auprès de Jean, le temps qu'ils découvrent, car c'est un cheminement que de découvrir le Christ, du Baptiste au Christ, du Christ au Baptiste, et en chemin, bien entendu, ils vont se trouver illuminés. Mais le Christ va dire quelque chose à propos de Jean. Il va dire, est-il un roseau, est-il quelqu'un aux habits raffinés? Eh bien non. Alors effectivement, Jean n'est pas un roseau, c'est-à-dire une herbe qui est penchée par le vent. Il est tout le contraire, puisque devant le vent puissant du monarque, eh bien il n'a pas craint, c'est pour ça qu'il est en prison, de lui dire, tu as péché, tu ne peux pas prendre cette femme. Et donc, il est tout sauf un roseau agité par le vent. Il est tout sauf un homme aux habits raffinés, puisqu'il est au désert, et que la mission essentielle du Baptiste, c'est de prêcher la pénitence. Oui, il est le prophète, c'est-à-dire le prophété, la voix devant. C'est ça, ce que ça veut dire, prophète, phonos, c'est la voix. Il est la voix devant. Il faut espérer que nous participons tous de cette mission aujourd'hui, c'est-à-dire d'être prophète du Christ qui vient. Peut-être trouvez-vous ça bizarre, puisque vous allez me dire, mais le prophète, c'est Jean le Baptiste, et le Christ est déjà venu. Et oui, c'est vrai, mais le Christ, il est venu et il vient. C'est-à-dire que son dernier avènement, son avènement dans la gloire, est en train de se réaliser. Entre le premier avènement sur terre, dans l'humilité de la crèche, et le côté caché de cet avènement, discret, et le dernier avènement, qui est l'avènement dans la gloire, nous sommes dans le deuxième, c'est-à-dire cet avènement en esprit et en puissance. C'est-à-dire que dans l'Eucharistie, le Christ vient dans son esprit et dans sa puissance, soyez-en persuadés. Ainsi, si nous participons nous aussi du Baptiste, c'est-à-dire que nous envoyons au Christ et que nous préparons sa venue, que nous sommes des prophètes, j'espère qu'en chantant, vous avez conscience que vous mettez votre voix devant le Christ qui vient, il n'y a pas d'autre raison, pas une répétition de chant, c'est une annonce du Christ qui vient, eh bien, nous participons alors de cette prophétie du Christ. Et alors, nous espérons aussi participer de la gloire qui est la sienne. Lui, dit le Seigneur, il est le plus grand des enfants des hommes. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Parce que dans le royaume de Dieu, où toute perfection est achevée, même le plus petit est plus grand que le plus grand des hommes. Pourquoi ? Parce que le Baptiste, quand il parle, est encore sur terre et qu'au ciel, il y a déjà des saints. Eh bien, soyons-en persuadés, il n'y a rien de commune mesure entre la gloire que nous connaissons ici et celle que nous connaisserons au ciel. Et c'est ma deuxième partie qui sera plus courte, c'est la joie et la paix. Les deux signes qui nous font participer déjà maintenant de cette venue du Christ qui advient et qui va porter du fruit, soyez-en persuadés. La paix et la joie. Alors ce sont les deux signes certains de la présence de Dieu. Saint Ignace de Loyola, il fallait bien que je vous en parle, eh bien dans ses exercices, invite, lorsqu'on prend une décision, à examiner si celle-ci nous procure de la joie et de la paix, auquel cas nous pouvons être assurés que la présence du Christ est dans cette décision. Oui, la joie et la paix sont les signes du Christ, une joie qui n'est pas une joie mondaine, ni une joie puérile. Ce n'est pas la joie crétine de ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont joyeux, ça arrive, hein, parfois vous avez des gens comme ça, bon, ils sautent comme des cabris, bon, ils ne savent pas pourquoi. Bon. Et puis vous avez la joie mondaine qui en fait s'apparente beaucoup au plaisir. Hein ? Et alors, on est joyeux de boire un coup, on est joyeux de dire une bêtise, on est joyeux, etc. Et puis, dès que ça finit, dès que le plaisir finit, la joie retombe. Et à ce moment-là, la tristesse, en général, s'augmente. Hein ? D'où la nécessité de se saouler de plus en plus. Hein ? Non, mais on se saoule de plein de choses. Hein ? Il n'y a pas que d'alcool. Hein ? On peut se saouler d'alcool, on peut se saouler de bêtises, on peut se saouler de portable, on peut se saouler de... Hein ? Jeûner de tout, hein ? Et pas seulement de viande. Hein. Vous ne serez pas seulement des bons chrétiens parce que vous mangerez du poisson le vendredi. Hein. Hein, privez-vous des choses qui ne sont que des plaisirs, hein, avec lesquels nous devons prendre une distance. Donc cette joie, c'est une joie intense. La joie de qui se sait aimé de Dieu, la joie des enfants de Dieu que nul ne pourra vous ravir, pas même la mort. Et oui, c'est une joie qui n'est pas une joie puérile, c'est une joie intérieure qui s'accommode de toute notre vie. Cela ne veut pas dire que les incidents, les malheurs, les tragédies de notre vie vont nous faire sourire. Non. Cela veut dire que la proximité d'avec le Christ, notre intimité avec Dieu, ne peut pas nous retirer la joie de savoir qu'il nous aime. Et cette paix, eh bien, cette paix, c'est la même. C'est la paix qui vient du Christ. Là aussi, oubliez vite la paix mondaine, la paix du monde. Comme le dit le Seigneur, ce n'est pas celle que je suis venu apporter. Hein. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix dans le monde, mais le glaive. Et oui, nous avons trop souvent la tendance à croire que la paix est le fruit d'une petite compromission bien gentille où, bon, on va éviter les sujets qui fâchent. Alors comme ça, on sera en paix entre nous. Et non, nous ne serons pas en paix. Nous serons dans un marécage qui tout au mieux nous fera nous détester gentiment sans nous frapper les uns les autres. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais non, ce n'est pas cette paix que le Seigneur est venu apporter, c'est la paix qui s'accommode de la vérité, vous le savez bien. Si vous prenez l'exemple d'une famille, pour vivre en paix, il ne suffit pas de vivre dans une certaine bonne intelligence. Il faut s'aimer vraiment et s'aimer en vérité. Car la paix qui, dit saint Augustin, est la tranquillité de l'ordre, c'est cette paix qui met tout dans un ordre parfait, qui agence tout et les gens les uns aux autres, cette paix qui nous fait voir tout dans l'ordre divin. Cette paix, vous ne la trouverez que si vous regardez le Christ, c'est-à-dire si vous regardez toute chose de ce monde en regard du Christ, car toute chose de ce monde est bonne. Tout ce qui est sur le monde nous a été donné pour trouver le Seigneur. Notre travail, notre famille, notre vocation, nos biens matériels, nos biens intellectuels, tout nous a été donné, quelle vision béatifique est déjà la nôtre, pour trouver le Seigneur. Si bien entendu, vous ne quittez pas votre regard du Christ qui vient, car il vient, il nous est proche, et c'est cela, mes frères, qui nous met dans la joie. Ainsi soit-il.